Assurance mixte, protégez celles et ceux qui vous sont chers grâce à Sunwa Assurance qui vous propose Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Des hommes et des femmes réunis dans une salle et qui les uns après les autres se présentent, prennent la parole et s'écoutent. Ce déroulement d'une séance d'un groupe de parole, beaucoup le connaissent pour y avoir participé ou simplement l'avoir vu dans un film ou dans un reportage. Alcoolisme, boulimie, violence conjugale, cancer, surpoids, les pathologies et souffrances prises en charge par ce type d'approche thérapeutique sont nombreuses. L'accompagnement peut concerner le patient, comme son entourage, l'écoute des autres, en train d'apporter des témoignages qui parfois ramènent à ses propres doutes, à ses propres espoirs, pour sortir de l'isolement, pour reprendre confiance. Des réunions qui peuvent s'organiser selon plusieurs modalités, volontariat, anonymat, gratuité, en fonction du cadre médical ou non, avec pour animer les échanges un soignant ou un bénévole. Une diversité donc de ces groupes de parole, et on aura l'occasion de l'entendre au cours de cette émission, avec comme valeur commune la culture de la bienveillance. Groupe de parole, on en parle donc avec vous aujourd'hui, docteur Philippe Battel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes psychiatre, addictologue, vice-président de SOS Addiction. Nous serons tout à l'heure en ligne avec Suzy, alcoolique anonyme depuis plus de 30 ans. Nous retrouverons également au téléphone le docteur Laëlia Benoît, pédopsychiatre à la Maison des Adolescents, Maison de Solène à Paris. Et puis toujours en deuxième partie d'émission, nous retrouverons en direct de la Côte d'Ivoire le docteur Patricia Fassino-Ekwevi, pédiatre à Abidjan, directrice scientifique et programmatique à la Fondation Elisabeth Glaser. Et il est aussi avec nous en studio en fin d'émission. On va retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen. Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Médecin du sport, médecin de l'équipe nationale de judo. Aujourd'hui, on parlera des objets connectés. Et puis bien sûr, le numéro de l'émission pour nous joindre, poser vos questions, témoigner. C'est le 33 84 22 75 75. Alors, ces groupes de parole, on sait à quoi ils ressemblent à peu près, mais pas toujours comment ils fonctionnent et les bénéfices précis que l'on peut en tirer. Et c'est ce que l'on va tenter de savoir avec vous, docteur Philippe Battel. Depuis quand ces groupes de parole existent-ils ?
Probablement depuis qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont trouvés en difficulté avec une addiction, et initialement l'alcool, puisque Alcoolique Anonyme est quand même né sur des groupes de parole de ce qu'on appelle les 12 étapes, engendré toute cette culture où il y a maintenant Narcotique Anonyme, les acheteurs compulsifs, dépendants affectifs anonymes et toute cette culture qui est née aux États-Unis au début du siècle dernier. Mais il faut distinguer deux choses. Il y a ces groupes de parole de type alcoolique anonyme et puis il y a plein de groupes de parole qui existent dans tous les centres d'addictologie et qui vont fonctionner sur le même principe, c'est-à-dire qu'il y a une liberté de la parole, de la bienveillance, vous l'avez signalé, et de l'écoute. Et ce qui permet, quoi ? Eh bien, de se rendre compte que l'homme, la femme, qui est en face de vous, partage quelque chose, c'est une souffrance, et partage aussi quelque chose qui est le souhait de sortir de cette souffrance et changer.
Alors là, on est dans un secteur de santé, dans un secteur d'addiction, mais on peut dire que socialement, l'histoire de l'humanité est faite de ces groupes de parole. On se réunissait, on parlait au village, quand on dit en Afrique, on se mettait sous l'arbre à palabre. C'est cette manière aussi de régler les conflits par la parole.
Absolument, absolument, et avec des règles selon les continents qui sont extrêmement variables, mais qui est quelque chose qui m'apparaît juste essentiel. Alors, je suis psychiatre de formation, donc bien évidemment, c'est la question de l'écoute. C'est la question de se poser. C'est la question de regarder comment l'autre va exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il a vécu, son histoire, comment il se l'a représente. Et on voit très bien, et autour aussi des groupes de parole maintenant avec les migrants, comment cette question est absolument essentielle de tracer sa propre histoire avec la bouche et le cerveau.
Poser le bagage en quelque
Exactement.
Sorte. Docteur Philippe Battel, vous êtes addictologue, hein, vous l'avez dit. Alors pour quel type de dépendance, vous avez parlé tout à l'heure, affectif, alcoolique, pour quel type de trouble cette prise en charge est-elle particulièrement recommandée?
Alors, dans les addictions, il y a une évaluation qui a été faite des groupes de parole, quel qu'en soit encore une fois un peu le mode, hein, parce qu'on peut utiliser ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle, on peut utiliser dans des groupes de parole aussi des thérapies qui sont cognitives et comportementales. Eh bien, sur les addictions avec produits, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très développé. Narcotique anonyme est extrêmement efficace chez bien des sujets qui sont en grande difficulté avec les produits, la cocaïne, l'héroïne, l'ecstasy, qui vont permettre au sujet d'abord d'être dans le happy few, hein, aussi, parce que il y a aussi le fait de se reconnaître et reconnaître qu'on n'est pas seul. Quand on est en proie avec une addiction, ce qui est terrible, c'est que on a tellement l'impression qu'on est différent des autres parce qu'on n'est pas capable de contrôler la consommation que les autres consomment. Eh bien, on se sent très isolé. Et là, par le truchement du groupe, il y a quelque chose qui permet que enfin on n'est pas seul, enfin mon histoire, eh bien, en écho, elle est dans la vie d'autres qui sont en face de moi.
Ça veut dire qu'en addictologie, ça rentre parfois même de façon systématique dans un schéma thérapeutique.
Alors oui et non, et c'est toujours ça qui est compliqué avec l'addiction, et on voit très très bien ça quand on parle aussi de l'intérêt des médicaments, de l'intérêt de type, c'est que il y a autant de façons de sortir d'une addiction que de sujets addicts. Donc dire que c'est obligatoire de passer par un groupe de parole, il y a des sujets par exemple qui sont porteurs de ce qu'on appelle dans notre jargon une comorbidité psychiatrique, c'est-à-dire le fait d'avoir un autre trouble psychiatrique qui est la phobie, je sais que vous allez travailler dessus bientôt, eh bien, quand on est un grand phobique, se retrouver dans un groupe, c'est juste impossible, parce que
c'est
ouvrir
anxiogène,
la bouche devant les autres, c'est anxiogène, c'est pas possible. Donc, vous voyez, ça peut pas marcher chez tout le monde. Et ça, c'est aussi important, parce que pendant très de temps en temps, ceux qui sont rétablis par un groupe de parole de type alcoolique anonyme, narcotique anonyme, deviennent des yalatollahs pensant qu'il y a que comme ça qu'on va s'en sortir. Non, il n'y a pas que comme ça qu'on va s'en sortir. C'est intéressant de s'en sortir comme ça, mais pour certains sujets, ils vont s'en sortir autrement.
Le groupe de parole, il est pensé en fonction de l'addiction, par exemple. Il va pas être conduit de la même manière quand on s'adresse à des alcooliques que quand on s'adresse à des toxicomanes.
Alors, je parle beaucoup d'alcoolique anonyme. On peut parler aussi d'autres, de croix d'or, d'alcool assistance. Il y a des groupes qui sont assez thématiques et qui vont permettre plus facilement la reconnaissance du problème entre les participants. Mais grosso modo, il y a toujours quelque chose en commun. En commun, il y a un problème. Reconnaître que ce problème, eh bien, face à lui, on est complètement incapable de le résoudre et qu'on va avoir besoin des autres et d'une puissance supérieure et quelque chose qui est autour de la spiritualité, qui souvent inquiète beaucoup les participants, mais je trouve que c'est très intéressant, va permettre d'avancer et s'en sortir.
Spiritualité, hein, parce que quand on parle, par exemple, on va y revenir, les alcooliques anonymes, le terme de Dieu est cité, mais en se renseignant un peu plus, chacun adapte, on va dire, trivialement, à sa propre sauce, c'est quelque chose qui nous porte, c'est une motivation supérieure en quelque sorte.
Bien évidemment, et c'est surtout, et c'est marrant parce que je pense que c'est nos cultures en Europe judéo-chrétienne qui sont très réticentes finalement à la question de la spiritualité. Alors que, rappelons quand même que ce mouvement est né de l'autre côté de l'Atlantique, dans lequel la question de la spiritualité est beaucoup plus large que ça et bien évidemment n'a pas de référence religieuse. Et quand on est perdu, quand on est éperdu dans une addiction, eh bien l'idée de se dire qu'on va se référer à une puissance supérieure, cette question de puissance supérieure, elle peut faire peur, elle peut faire penser qu'on rentre dans une secte. Pas du tout. La puissance supérieure, c'est bien évidemment aussi cette addiction qui vous colle à la peau et dont vous n'arrivez pas à sortir.
Alors vous restez avec nous, hein, docteur Philippe Battel, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Nous avons Suzy au téléphone. Suzy, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, si je donne pas votre nom, c'est pas par familiarité, hein, mais c'est parce que la façon de procéder chez les alcooliques anonymes dont vous êtes membre, Suzy, oui, c'est justement de rester anonyme. Vous avez intégré cette association, on dit les AA, il y a déjà de très nombreuses années.
Oui, en effet, oui. Ça fait maintenant un peu plus de 30 ans, 33 ans et quelque chose que je suis abstinente. Et beaucoup plus longtemps encore que j'ai rencontré les alcooliques anonymes parce que ça n'a pas fonctionné. Alors, très vite pour moi.
Alors,
voilà.
vous allez nous décrire ce que ces réunions vous ont apporté, mais d'abord, pour comprendre un petit peu comment ça se passe, ce reportage de Raphaël Constant.
On y va ? Bien, bonjour, je m'appelle Benoît, je suis alcoolique, j'ai pas bu aujourd'hui, je vais bien et je suis heureux de modérer avec vous cette réunion. Donc on va pouvoir commencer la réunion sur le thème qui est suggéré, sinon évidemment la parole est libre et les nouvelles sont tout à fait libres. Alors voilà ce que dit cette pensée du jour. Dès que j'ai cessé d'argumenter, j'ai pu commencer à voir et à ressentir. Aussitôt, en douceur et petit à petit, la deuxième étape a commencé à s'infiltrer dans ma vie. Je ne puis préciser dans quelles circonstances ni quel jour je me suis mis à croire en une puissance supérieure à moi-même, mais aujourd'hui, il est certain que cette foi, je l'ai. Pour l'acquérir, il m'a suffi d'arrêter de me battre et d'appliquer le reste du programme des AA avec autant d'enthousiasme que possible. Après avoir passé des années à vivre comme un déchaîné et comme un entêté, j'ai trouvé dans la deuxième étape une merveilleuse façon de me libérer de ma grande solitude. Il n'y a plus rien d'aussi pénible et d'aussi insurmontable maintenant dans mon cheminement. Il se trouve toujours quelqu'un avec qui je peux partager les fardeaux de la vie. La deuxième étape m'a permis de renforcer mes liens avec Dieu et je me rends compte que ma folie et mon ego allaient de pair. Pour me débarrasser de l'une, je dois abandonner l'autre à quelqu'un qui a les épaules beaucoup plus larges que les miennes. Voilà, je vais vous passer la parole. Oui.
Bonjour, je m'appelle Serge, je suis alcoolique. Moi, dès ma première réunion, j'ai posé le verre. Et aujourd'hui, je n'ai plus de désir d'alcool ni de tentation. Ma vie a complètement changé. Bien sûr, je crois en une force extérieure. Moi, pour moi, c'est Dieu. Quand je suis arrivé, j'avais bu pendant 25 ans, mais j'étais dans le déni. Et surtout, ça me faisait très peur d'arrêter complètement. Donc, je voulais faire à ma façon. Par exemple, je pensais aller au restaurant, boire du vin, et puis m'arrêter là. Mais ça n'a jamais marché, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je démarrais, je commençais à boire un verre, ça s'enchaînait. C'est propre aux alcooliques, c'est le phénomène du craving. Bon, je ne connaissais pas tout ça, moi, avant de venir en réunion. Pour moi, il s'est passé quelque chose à ma première réunion. Hein. À la fin de cette réunion, j'ai vraiment voulu arrêter. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Aujourd'hui, je suis plus calme, j'ai retrouvé la raison, voilà. Merci.
En ce qui me concerne, bon, je n'ai jamais cherché à savoir pourquoi j'avais bu. Mon père était alcoolique, on en est mort. Moi, mon père, combien de fois, je lui ai dit, mais jamais je serai comme toi. Moi, je boirais pas et tout, alors que voilà, me voilà aux alcooliques anonymes. Par contre, pourquoi je continue à aller dans les réunions, pourquoi je continue à me rétablir, ça, je le sais. C'est-à-dire, moi, j'ai pas du tout envie de crever comme ça. En plus, vous m'avez fait connaître qu'il est possible d'avoir une vie apaisée. Moi, depuis presque 14 ans maintenant, je vis bien. Je ne peux que vous remercier de tout ça. Et je souhaite très sincèrement à nos jeunes amis qu'ils puissent se trouver dans l'abstinence. Voilà, merci.
Merci, merci Jean-Claude.
Il veut parler ? Oui ?
On m'a aiguillé dans cette réunion la première fois et ça a marché tout de suite. Je suis arrivée ici après bien 30 années d'alcool, avec des hauts et des bas, bien sûr, avec des arrêts, des reprises. Hein. Donc je suis arrivée un jour où j'étais au fond du... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi ce jour-là j'ai téléphoné à la permanence. Et en arrivant ici, ce qui m'a accrochée assez vite, c'est la bienveillance des gens autour. Et puis, donc cette impression d'amour, d'affection que j'ai ressentie tout de suite. Même le fait qu'on me tutoie, ça m'a fait plaisir. Ça voulait dire que je faisais partie d'un groupe. Et ça m'a vraiment fait du bien. Chaque fois que je vais en réunion, je suis portée ici. Je suis portée aussi bien pour mes épreuves personnelles. Les AA continuent, en dehors du problème d'alcool, à m'apporter énormément pour ma vie quotidienne. Voilà, merci les amis.
Merci Marie-François.
Merci Marie-François.
Qu'est-ce qui veut prendre la parole ?
Oui.
Jean-Jacques Rousseau disait qu'on était des animaux sociaux, et j'en suis la caricature. Des amis partout, des activités partout, du sport partout. Et j'étais le bout en train. Au début, l'alcool, c'était très très festif. Mais quand c'est festif tous les soirs, c'est plus la fête en fait. Le matin, je tremble. J'ai 42 ans, j'ai deux enfants, et je suis en train de tout perdre. Là, j'ai bu un litre de bière à 14 degrés, et une bouteille de rouge, et j'ai fait 2 heures de squash. Donc je suis vraiment bien, bien dedans. C'est une catastrophe. Je vais dans le mur en fait. Je suis en train de me suicider. Et j'ai qu'une envie, c'est quand je sors d'ici, c'est d'aller m'acheter une bière au Franprix quoi. Et quand on fait ça, on se déteste encore plus. C'est vraiment, c'est une catastrophe.
Ici, tu n'es pas jugé. si tu as un problème d'alcool, tu sembles en avoir un, bah, tu vas te reconnaître dans les témoignages des uns et des autres. La première chose que chacun d'entre nous a faite, c'est de venir à une réunion. Tu vas trouver les voies et moyens d'arriver à passer à autre chose qu'à ce besoin d'alcool. Si, bien entendu, tu écoutes ce qui t'est suggéré dans ces réunions et si tu viens dans nos réunions. Hein.
Reportage de Raphaël Constant. Suzy, on vous retrouve en ligne. Comment vous vous expliquez que ces groupes de parole, hein, des alcooliques anonymes, vous aient permis de décrocher ?
Eh bien, j'ai pu, enfin, ça a été dit par Monsieur Battel tout à l'heure, m'identifier et réaliser que d'autres que moi vivaient la même souffrance. Moi, je croyais que j'étais tout à fait à part, que moi c'était pas pareil, que personne ne pouvait m'entendre, me comprendre. Et pendant longtemps, j'ai pas du tout pu parler en réunion, mais je me suis nourrie des gens qui parlaient de moi, en fait. Voilà. Mais j'ai fait beaucoup de résistance, j'ai mis longtemps, j'étais assez hostile à la puissance supérieure, à ce que je pensais être un aspect religieux, parce que je suis absolument non-croyante. Donc, ça m'a servi de prétexte, en fait, et j'ai longtemps fréquenté des groupes alcoolisés.
Est-ce que vous aviez entrepris d'autres thérapies en plus de cette prise en charge des AA ?
Oui, j'avais essayé, j'avais rencontré, bon, ça remonte à quand même assez loin, hein, 35-40 ans, j'avais rencontré des psychiatres, il y avait assez peu d'addictologues, mais j'en avais rencontré un, ça ne m'avait pas aidé, j'avais l'impression de ne pas être entendue.
Docteur Philippe Battel, trouver son compte, adhérer à ce type de groupe de parole, est-ce que c'est une question de personnalité, de moment ou de maladie ?
De personnalité, sûrement pas, parce que autour des réunions, on voit des personnalités extrêmement différentes. C'est moi, je m'intéresse beaucoup au process de changement. Comment on prend une décision ? Eh bien, il y a des sujets addicts qui vont arriver à asseoir, engrainer cette question du changement, la faire pousser par une identification. Et il y a une chose qui est très importante dans les réunions, c'est que le témoignage permet de dire aux autres « changer, c'est possible ». Or, un addict, pendant très longtemps, il est persuadé qu'il n'a plus du tout les moyens de changer.
Une dernière question avec vous, Suzy. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous passer de ces groupes de parole ?
Si, je peux tout à fait m'en passer. Je m'en suis passée d'ailleurs pendant un certain nombre d'années sans reboire. Mais ce que ça m'apporte, c'est énorme. Ça m'apporte dans ma vie quotidienne. Moi, je n'y vais plus du tout pour ne pas boire, parce que ne pas boire, j'en sais rien. Moi, c'est chez nous, on parle d'un jour à la fois. Progresser dans... C'est ma gymnastique spirituelle. Si je veux me muscler, je fais pas 2 mois de gymnastique et je me dis, ça y est, je suis musclée, c'est bon, je peux arrêter. Je continue à me muscler. Et puis, chez nous, il y a aussi une notion extrêmement importante, c'est celle de la c'est la notion de la transmission. Pour moi, transmettre à d'autres, ça me fait du bien. Donc ça continue à me faire du bien et il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Et ça s'entend, ça s'entend quand vous dites nous. Absolument. On sent vraiment votre appartenance au groupe. Alors, on ne va pas parler de famille parce que la famille c'est pas toujours la solution au problème. Mais en tout cas, on sent ce nous. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous réchauffe, qui vous entoure, un vrai cocon. Merci infiniment, Suzy, pour ce témoignage. Et vous restez avec nous, docteur Philippe Battel. On va se retrouver dans 3 petites minutes après les informations, toujours pour parler des groupes de parole, et on sent une chaleur en tout cas qui se dégage de ces différents témoignages. Ça fait du bien dans Priorité Santé, un peu de chaleur. On se retrouve, ça fait du bien parce qu'aussi il fait froid dehors. On se retrouve tout à l'heure dans 3 minutes pour nous appeler, le numéro de l'émission 33 1 84 22 75 75.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Et on se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé, toujours consacrée au groupe de parole. Confiance, partage, expérience, bienveillance, un temps d'expression et de rencontre, sans jugement, pour se traiter, pour sortir d'une dépendance, pour atténuer une souffrance. On continue d'en parler avec vous, docteur Philippe Battel, psychiatre, addictologue, vice-président de SOS Addiction. Alors, docteur Battel, ces groupes, on peut les trouver en ville comme dans le cadre hospitalier?
Bien sûr, il y a la plupart des services d'addictologie, quel qu'en soit, j'allais dire, le niveau et leur façon de travailler, ont des groupes de parole. Et puis, on peut les trouver autour des sites internet d'Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes, mais aussi Croix Bleue, Vie Libre. Là, il suffit de rentrer son code postal et
on aura toute
la
une
réunion
liste
qui est la plus proche.
Docteur Battel, on peut distinguer d'ailleurs des groupes qui sont animés par des thérapeutes et d'autres où l'organisation repose uniquement sur le bénévolat.
Oui, et sur des sujets qu'on appelle des pairs, c'est-à-dire des sujets qui ont déjà vécu. Mais il se trouve que moi, il m'est arrivé dans les services que je dirigeais de faire diriger des groupes par des pairs.
Vous déléguez.
Je pense que ça peut être très intéressant de déléguer. Et où nous assistions comme des témoins. D'ailleurs, moi, dans la formation de mes internes, je leur ai toujours proposé dans un premier temps et deuxième temps exigé d'aller s'asseoir dans un groupe de Narcotiques Anonymes et d'Alcooliques Anonymes pour apprendre. Moi, j'ai appris énormément. J'y suis allé pendant un an quand je faisais mon postdoc aux États-Unis. Et j'ai découvert la maladie addictive. Pourtant, je l'avais appris et je l'ai même enseigné dans un grand nombre de facultés de médecine. Mais les patients m'ont beaucoup plus appris que les livres, y compris même ceux que j'ai écrits.
Alors, des groupes de parole qui se réunissent dans la structure où vous travaillez. Docteur Laëlia Benoît, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre à la Maison des Adolescents, Maison de Solène à Paris. Est-ce que vous pouvez nous décrire le déroulement de ces groupes de parole, justement, pour des jeunes?
Alors, à la Maison des Adolescents, nous avons trois groupes de parole pour les jeunes. Un groupe de parole adolescent, pour des adolescents de 14 à 19 ans. Un groupe de parole pour les jeunes adultes, donc de 18 à 25 ans. Et un groupe de parole pour la fratrie, où les frères et sœurs sont invités à participer.
Avec de la mixité?
Exactement.
Alors, des adolescents réunis au sein d'un groupe de parole, est-ce qu'ils souffrent des mêmes pathologies, docteur Laëlia Benoît?
Alors non, les thématiques sont très variées, les difficultés aussi sont très variées, et c'est le fait de se retrouver tous ensemble et de dialoguer ensemble qui permet de les aider.
Alors justement, on entendait tout à l'heure avec les Alcooliques Anonymes, les personnes entendent des expériences qui ressemblent aux leurs. Est-ce que justement, quand il n'y a pas des pathologies ou des troubles différents, on a davantage de mal à se reconnaître?
Alors, on peut avoir au départ plus de facilité à se reconnaître quand on a tous le même problème, mais en revanche, ce qui aide en tout cas nos adolescents, c'est de se rendre compte qu'on peut être très différent et quand même faire l'expérience de difficultés similaires. Par exemple, nous, on a beaucoup d'adolescents qui sont timides, qui ont du mal à prendre la parole, et ils se rendent compte que d'autres, quelles que soient leurs difficultés, peuvent avoir ce problème-là. Et donc, ça leur permet de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls, que d'autres ressentent de la tristesse, même si leurs difficultés au départ ne sont pas les mêmes.
Est-ce que le programme de ces séances, docteur Laëlia Benoît, est prédéfini?
Non, absolument pas. Donc, le programme est très varié et il est apporté par les adolescents eux-mêmes. Donc, les sujets peuvent changer chaque semaine selon l'intérêt du moment.
Est-ce que l'animation, tout à l'heure on parlait, hein, qui anime ce groupe, est-ce que c'est confié à un médecin, un psychologue?
Non, les groupes de parole sont animés par un binôme qui est composé d'un psychologue ou d'une psychologue et d'un infirmier.
Avec, j'imagine, pour tous ces adolescents, enfin pour la plupart d'entre eux, d'autres thérapies qui sont conduites simultanément, parallèlement.
Exactement, les groupes sont proposés à des adolescents qui sont déjà suivis par un médecin au sein de la structure et qui peuvent avoir d'autres thérapies individuelles ou des activités en dehors.
Alors, une question plus générale, la docteur Laëlia Benoît, qu'est-ce qu'ils trouvent dans ces groupes de parole qu'ils ne trouvent pas ailleurs?
Eh ben, justement, comme je disais, les plus timides peuvent apprendre à prendre la parole, à parler d'eux, et par la suite, c'est une compétence qu'ils réussissent à exprimer en dehors, même quand ils ne sont plus dans le groupe. Souvent, ils remercient, ils viennent dire « voilà, ça m'a permis de faire ça et maintenant, je réussis à le faire ». Et puis par ailleurs, ils peuvent construire un savoir collectif, se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Par exemple, à vivre des difficultés avec leurs profs ou avoir des camarades qui sont méchants ou à se poser la question de comment aider des amis qui vont mal. À ce moment-là, ils se rendent compte que c'est des difficultés générale, et ils peuvent même s'entraider les uns les autres, c'est-à-dire qu'ils deviennent un peu co-thérapeutes finalement, ils font le travail que pourrait faire le psychologue, mais en se donnant des conseils les uns les autres, et finalement ces conseils sont souvent mieux acceptés puisqu'ils viennent de jeunes du même âge, alors que si un adulte les donnait, ce serait moins bien accepté.
Merci infiniment, docteur Alalia Benoît. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre à la maison des adolescents, maison de Solène à Paris. Docteur Philippe Battel, spécialiste des addictions. Est-ce que l'approche est différente quand il s'agit d'addictions chez des adolescents?
Oui, l'approche est différente parce que les adolescents sont extrêmement vulnérables aux addictions pour plusieurs raisons. D'abord, elle est quasiment, j'allais dire, physiologique. Un adolescent, c'est quelqu'un qui fait des expériences. Donc, quand il y a des produits qui circulent, faire des expériences avec les produits, ça m'apparaît terriblement naturel. Mais ils ont aussi une grande difficulté souvent à prendre de la distance par rapport aux produits. Et l'approche avec les adolescents est importante. Et elle est aussi importante parce que les adolescents, ils souffrent aussi des addictions de leurs parents, beaucoup, et les enfants. Et à Boujon, j'avais mis en place un groupe enfant. Et dans ce groupe enfant, on avait fait deux tranches, les petits et puis les adolescents. Et la richesse que ces adolescents pouvaient apporter dans ces échanges et l'entraide absolue qu'ils pouvaient avoir était juste essentielle pour travailler toutes ces questions qu'on appelle la codépendance ou les dommages de l'entourage chez les sujets addicts.
Alors, docteur Philippe Battel, adolescent prise en charge, des personnes dépendantes que vous traitez en addictologie, il y a aussi des troubles mentaux liés à la dépendance qui sont traités, et puis d'autres patients, par exemple en oncologie, des groupes de parole existent, en soins palliatifs également, dans certaines maternités, tout simplement quand on n'est pas malade, mais qu'on a besoin de partager des choses.
Bien évidemment, et pas pour ramener tout le temps la couverture à nous, mais les soignants aussi, ils ont besoin de groupes de parole.
Et dans les souffrances des soignants.
Exactement, et c'est absolument essentiel, en particulier en oncologie, en soins palliatifs, il y a des groupes de parole qui sont animés et qui apportent énormément aux soignants pour pouvoir être des moins mauvais, voire des bons soignants.
Alors, groupe de parole, on les retrouve dans le monde entier, on l'a dit tout à l'heure. Les alcooliques anonymes, c'est parti des États-Unis en 1935, un petit peu d'histoire. Mais dès 1905, un médecin américain, il s'appelle le docteur Pratt à Boston, il crée les premières psychothérapies de groupe pour des tuberculeux. Oui. Et à Abidjan, expérience là avec des enfants séropositifs. On en parle tout de suite avec le docteur Patricia Fassino-Ekwevi. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre en Côte d'Ivoire, directrice scientifique et programmatique à la Fondation Elisabeth Glaser. Docteur Fassino-Ekwevi, comment est-ce que l'on propose aux enfants d'intégrer ces groupes de parole?
Okay, merci. Donc, ça fait partie des soins proposés par l'équipe soignante. Donc, il est proposé aux enfants qui ont eu l'annonce, parce que là, justement, ce qui réunit ces enfants, c'est l'infection à VIH. Donc, ils doivent avoir reçu l'annonce qu'ils sont porteurs du virus. Et donc, dans le cadre du processus de prise en charge de ces enfants, il leur est proposé de participer à ce groupe de parole parce que, comme on a vu, ce sont des lieux d'expression et d'écoute autour d'un sujet bien précis. Et surtout, ça permet aussi à l'enfant de pouvoir recevoir des autres. Donc, la proposition est faite à l'enfant, mais également à la famille. Mais le choix, la décision de participer à ces groupes de parole revient à l'enfant.
Proposer, ça veut dire, docteur Ekwevi, sur la base du volontariat.
Exactement. On participe à un groupe de parole parce qu'on le veut. On ne peut pas obliger. L'équipe soignante suggère, elle argumente auprès de l'enfant, elle argumente auprès de la famille, mais ni la famille, ni le personnel soignant peut imposer à un enfant de participer à un groupe de parole. On peut lui proposer de faire l'expérience, d'aller à une séance, voir si ça l'intéresse, mais on ne peut pas l'obliger à y rester.
Et souvent, docteur Fassino-Ekwevi, d'après votre expérience, les enfants s'y rendent à ces groupes de parole, ils finissent par être convaincus des bienfaits de ce type de réunion?
Exactement. Pour ceux vraiment qui ils sont partis, qui reviennent, c'est parce qu'ils voient le bienfait de cette activité. Parce que c'est pour eux, c'est vraiment un endroit où ils peuvent s'exprimer. Un des participants a dit tout à l'heure, je me sentais à part, je me sentais différent. Et c'est ce que ces enfants ressentent quand on leur fait souvent l'annonce. Et donc, ils ont besoin lorsqu'ils vont dans ces groupes de parole, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas différents, qu'ils ne sont pas seuls. Et donc, vraiment, ça leur apporte beaucoup, tant en termes de partage d'expérience avec d'autres, pour les aider à surmonter certaines difficultés, mais eux également, ils reçoivent beaucoup des autres. Souvent, il y a des sujets dont ils ne peuvent pas discuter avec l'équipe soignante ou avec la famille, et là, ils ont vraiment un espace où ils peuvent en parler. Et souvent aussi, c'est un espace de détente et de bien-être, parce que des sorties détente sont organisées pour ces enfants, ils font des activités récréatives ensemble, donc vraiment, ceux qui y participent, ils y trouvent beaucoup d'avantages.
Dire des choses simples, par exemple, comme « je déteste les piqûres, j'en ai marre de prendre mes médicaments », pouvoir aussi, même si c'est un espace de partage positif, dire qu'on est en colère, par exemple.
Exactement. Comme vous dites, là-bas, il peut dire « je ne prends pas mes médicaments, je ne veux plus de ces médicaments ». Ou bien là-bas, il peut encore dire « j'ai des rapports sexuels non protégés », bien que l'équipe soignante va dire « vous êtes des adolescents, vous avez le droit à une vie sexuelle, mais il faut avoir des rapports protégés ». Donc, c'est vraiment l'endroit où ils peuvent s'exprimer, et justement l'avantage, d'autres diront « j'ai vécu les mêmes difficultés, mais voilà ce qui m'a aidé à changer ce comportement. Je ne prenais pas mes médicaments, mais je me suis rendu compte que je suis devenue résistant, j'ai fait des infections opportunistes, et donc je suis revenue à prendre mes médicaments ». Donc vraiment, on peut dire les choses simplement et souvent dans la vérité. Le groupe de parole, c'est la vérité.
Docteur Patricia Facino-Ekwevi, concrètement, ça se passe où? C'est organisé à l'hôpital, dans des centres de santé?
Ça dépend. Ça peut être organisé à l'hôpital, dans un centre de santé, en général en dehors des moments d'affluence. Parce que l'avantage pour que disent certaines personnes lorsque c'est organisé dans les centres de santé, ça réduit le risque de stigmatisation. Parce que je peux facilement justifier à des amis ou même parfois à certains membres de ma famille de me rendre à l'hôpital juste par exemple pour aller visiter quelqu'un ou pour aller y recevoir des soins. Donc c'est plus, ça fait un peu plus anonyme. Mais par contre, on a aussi des groupes de parole qui se réunissent parfois dans le siège de certaines organisations communautaires. Donc là, c'est vrai que ces organisations n'ont pas une opinion sur eux, on n'a pas une grosse place pour dire ONG tant, mais je veux dire, certains, quand c'est organisé dans ces structures, ils sont un peu plus hésitants parce que quoi qu'on dise, l'entourage, au bout d'un moment, ils savent qu'est-ce qui se passe dans ces organisations ou qui vient dans ces organisations. Donc, on a deux possibilités en général, la structure de santé ou l'organisation communautaire.
Dernière question, docteur Ekwevi, sur l'animation de ces groupes. Qui anime? Est-ce que ce sont des médecins, des parents, des bénévoles?
Ça dépend. Pour les groupes qui sont souvent dans les grandes villes comme à Abidjan, vous avez certains qui sont animés par des psychologues cliniciens. Mais comme l'a dit le docteur Battel, ce sont des co-animations. Donc vous avez parfois des professionnels de santé, donc comme je dis, les psychologues cliniciens ou les travailleurs sociaux. Mais c'est souvent co-animé par des conseillers communautaires ou des personnes vivant avec le VIH qui ont été orientés sur l'animation de ce type de groupe ou qui ont acquis une expérience à force de fréquenter ces groupes, à force d'y aller. Donc, ce n'est pas forcément des spécialistes en tant que tels et même qui peuvent animer ces groupes. Et ces groupes, selon la thématique, on peut inviter des personnes externes. Si ce jour-là, on veut parler de traitement antirétroviraux, on peut inviter un médecin d'un centre de prise en charge pour venir co-animer. Il y a des moments où ce sont des thèmes sur la communication au sein de la famille. Là, on peut inviter certains parents d'enfants vivant avec le VIH pour venir échanger avec les enfants. Donc, l'animation dépend du thème, mais elle est généralement coordonnée par un binôme, un travailleur social ou un psychologue, plus une personne vivant, un père, une personne vivant avec le VIH, un conseiller communautaire.
Espace de partage pédagogique, éducation thérapeutique. Merci beaucoup, docteur Patricia Facino-Ekwevi. Je rappelle que vous êtes pédiatre à Abidjan, directrice scientifique et programmatique à la Fondation Elisabeth Glaser.
Priorité santé sur RFI.
Les groupes de parole. Alors, docteur Philippe Battel, certains gardent encore certains préjugés hein, sur ces fameux oui. groupes. Le côté un peu sectaire, gourou, il y a même eu des films consacrés à ce genre de choses. Aussi, la manipulation. Est-ce qu'aujourd'hui, les groupes de parole en ont vraiment fini avec ce genre de caricature?
Non, et je crois qu'elle s'installe. Elle s'installe dans les séries américaines et même parfois françaises.
Et ça ne reflète pas la réalité?
Très peu, et pour le coup, et c'est bien de réalité dont il est question, hein, de faire face à la réalité de son trouble, de son addiction dans ces groupes. Moi, j'invite toutes les personnes à aller à une réunion dite ouverte en ce qui concerne Alcoolique Anonyme.
Justement, il y a la réunion ouverte, réunion fermée.
Exactement. Voilà. La réunion ouverte, elle est ouverte à tout le monde et on peut venir en tant que spectateur et de regarder ce qui se passe et d'essayer de comprendre. Et on apprend plein de choses. Et puis, encore une fois, il faut élargir, hein, et votre émission le fait bien autour de cette intervention remarquable là, de ces groupes chez les enfants séropositifs en Afrique. L'idée de mettre en commun des souffrances avec, comme règle, l'écoute, la bienveillance. Et l'idée que, bien évidemment, quand on partage quelque chose, on peut faire en sorte de s'en débarrasser de cette souffrance et de l'éloigner. Je trouve que c'est essentiel et qu'il ne faut pas l'enfermer dans des caricatures qui se voudraient être justement des questions de secte.
Et justement, vous disiez bienveillance. Écoute, est-ce qu'il y a des perturbateurs, des gens, docteur Philippe Battel, qui sabotent à proprement parler le oui. processus en émettant des jugements, ricanements, critiques, en interrompant les autres?
Oui, bien sûr.
Alors, qu'est-ce qui se passe? On les exclut?
On les régule. et ce qui est très intéressant, c'est que cette régulation, elle se fait la plupart du temps par les participants. Moi, j'ai animé pas mal de groupes et je me suis rendu compte que très souvent, j'étais là, parce que je suis plutôt bavard, j'ai une personnalité qui fait que voilà. Et très souvent, je me rendais compte qu'il fallait au contraire se servir d'un participant qui était bien plus efficace que moi pour réguler. Et vous avez raison, il y a parfois des questions de personnalité qui fait que ça fonctionne pas. Mais on peut se tromper. Moi, je donne toujours cet exemple. Pendant très longtemps, j'étais persuadé que parmi mes patients, je savais repérer quels étaient les bons et les mauvais candidats pour la participation à un groupe alcoolique anonyme. Et je me souviens de deux patients. Un qui était un patient qu'on appelle dans notre jargon un psychopathe, hein, ce qui n'est pas un serial killer, mais quelqu'un qui ne supporte pas les règles, qui va être dans la manipulation systématique. Et celui-là, je me suis dit, oh là là, garde-toi bien de l'adresser dans un groupe alcoolique anonyme, il va foutre le bazar. Eh bien, il revient 5 ans après en me disant, écoutez docteur, j'ai rencontré un truc, c'est formidable. Pourquoi? Parce que le groupe a apaiser tous ces trucs. Et le deuxième, c'était un syndicaliste, quelqu'un qui était engagé dans le dialogue social, dans le partage. Et je me suis dit, celui-là, ça va être formidable, on va le mettre dans un groupe, ça va être extraordinaire. Il revient en me disant, mais docteur, qu'est-ce que c'est que cette secte dans laquelle vous m'avez adressé? Donc, comme quoi, les médecins sont assez mauvais pour, en tout cas moi, pour repérer quels sont les bons et les mauvais candidats.
Pas de jugement, vous avez dit.
Auto-jugement, je peux essayer de me corriger. Le groupe régule les choses et c'est bien la magie du groupe.
Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises séances?
Oui. Moi, je me souviens de séances absolument terribles dans lesquelles cette souffrance envahissait tout le groupe venait en écho pouvait chez des sujets qui arrivaient, je me souviens en particulier dans un groupe entourage dans lequel il y avait comme ça des femmes et des hommes, des enfants qui venaient parler des énormes difficultés qu'ils avaient à supporter le malade addict dans leur propre famille et ça effondrait des participants parce que bien évidemment eux ils avaient dans leur propre famille des cas qui étaient moins élevés. Donc parfois il y a des séances difficiles.
Alors justement une approche d'entraide fraternelle, on parlait tout à l'heure des perturbateurs, mais même quand on n'est pas perturbé ou perturbateur, quand on est tout simplement très en colère, est-ce que le groupe a une capacité pour adoucir justement cette colère?
Oui et non. Oui parce que il y a une, pour le coup, un esprit global qui plane autour de tout ça et qui va donner un sens. Et puis parfois la colère, et on voit bien ça dans les phénomènes de masse, la colère elle vient en écho et elle va s'amplifier et elle va comme ça se répondre. Et c'est tout le travail des régulateurs d'arriver à un moment ou à un autre à poser les choses et à dire écoutez, cette colère vous venez de l'exprimer, elle est importante mais elle ne doit pas rester telle parce que c'est pas ça qui va vous permettre de changer.
Est-ce qu'il y a par contre des addictions, docteur Philippe Battel, des addictions qui finalement ne peuvent pas trouver, pas forcément de solution, mais d'amélioration par le biais de cette mise en commun de la parole?
C'est difficile de dire, parce que là, si je réponds vraiment sur le plan purement scientifique, ça n'a pas été regardé de très très près. Hein. Et c'est compliqué, parce que quand vous voulez mesurer quelque chose, vous faites... la stratégie que vous voulez mesurer contre placebo. Et la stratégie, il faut la mesurer. Or, la participation à des groupes qui sont anonymes, pour pouvoir le mesurer, vous comprenez que assez compliqué. Mais je sais que les groupes, par exemple, qui s'intéressent au traitement des addictions sexuelles, eh bien, c'est compliqué. Ben, c'est compliqué parce que, bien évidemment, quand on est addict sexuel et que on est en face d'autres sujets qui ont la même vulnérabilité d'avoir, comme ça, à fleur de peau, ce désir qui apparaît complètement insatiable... Eh bien, il faut une drôle de régulation pour arriver à ce que, dans le groupe, justement, il n'y ait pas une perpétuation de cette pathologie addictive.
Ce serait comme un petit peu faire une réunion des alcooliques anonymes dans un
troquet.
Voilà.
Mais,
enfin,
à savoir, ça peut se faire.
Merci beaucoup, cet échange touche à sa fin. Docteur Philippe Battel, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission consacrée au groupe de parole. Je rappelle que vous êtes psychiatre, addictologue et vice-président de SOS Addiction.
Priorité santé sur RFI.
L'activité physique et la santé, c'est votre créneau, docteur Jean-Marc Sen. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. On va parler tout de suite des objets ou dispositifs connectés sport-santé. Ça se multiplie, on en voit un petit peu partout. C'était particulièrement le cas en France pour ce qu'on appelle le temps des fêtes. Alors comment s'y retrouver, docteur Sen?
Absolument, Caroline. Alors, il y a tout un ensemble de capteurs là qui sont faits pour nous aider dans nos pratiques sportives, suivre notre forme, notre état de santé, et connaître aussi l'état de sédentarité. Alors, historiquement, il y en a un, c'est le cardiofréquencemètre, vous savez, qui a été utilisé par des millions de sportifs. Et aujourd'hui, eh bien, il y a un ensemble de choses comme des montres, des bracelets, les téléphones portables, même des vêtements ou même ça va jusqu'à des pilules à avaler qui donnent comme ça un ensemble d'informations. Alors qu'ils vont alimenter, on va dire, un big data, et sans s'en rendre compte, on a comme ça une analyse extrêmement assez profonde de la personnalité des gens qui se fait par l'intermédiaire d'algorithmes. Alors, tout ça, il faut en être conscient parce que ça pose des problèmes de confidentialité.
Alors justement, ces données, comment savoir où elles arrivent, à qui elles sont destinées, c'est des vrais problèmes, des questions éthiques.
Mais oui, parce que par exemple, dans le domaine sportif, on peut imaginer des capteurs du sommeil, l'entraîneur a cela, et puis il a la réponse, et puis il écarte le sujet, par exemple, de la composition de l'équipe. En médecine, on peut imaginer que des employeurs pourraient avoir des résultats en lien, par exemple, avec une maladie, un diabète, et puis, à ce moment-là, modifient le poste de travail, ou même n'embauchent pas une personne. Donc, comment sécuriser l'utilisation de ces données? Comment et par qui les utiliser? Ce sont des questions qui nécessitent des réponses précises et assez transparentes.
Alors, il y a une question de base, Est-ce que c'est vraiment utile? Ces capteurs sont-ils vraiment utiles pour la santé ou ce sont tout simplement des gadgets, encore un produit marketing?
Bien, bon, Caroline, on peut dire que techniquement, ces capteurs semblent relativement au point. Ça dépend bien sûr, comme on l'a dit, des algorithmes d'interprétation. Quelquefois, on ne sait pas très bien dépister la marge du piétinement, le nombre de calories brûlées, mais enfin, on peut dire que ça marche globalement relativement bien. C'est un objet à la mode. Ça veut dire que probablement, il pourrait être abandonné au bout de quelques mois. On se souvient des vélos d'appartement ou des cardiofréquencemètres qui sont utilisés quelques temps et ensuite abandonnés. Et puis, ils dépendent aussi de l'habileté technique et donc sont pas obligatoirement accessibles pour tout le monde. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas faire l'économie du contact humain et prescrire simplement un bracelet ne suffira pas à modifier le comportement d'un patient. Donc, si on veut avoir un résultat favorable et durable, le suivi, le contact humain sera certainement toujours nécessaire. Ça peut néanmoins servir, être une source de motivation et être utile dans de nombreuses maladies chroniques ou dans le suivi du sport et de l'activité physique. Alors, donc voilà, on peut conclure que ces capteurs sont tout à fait intéressants, mais que l'intervention de l'humain pour avoir une performance et une utilisation durable est indispensable.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen. On s'est parlé pendant 3 minutes. Eh bien, on va se retrouver très bientôt pour une heure complète. Ce sera le lundi 19 février. Émission de priorité spéciale nutrition et sport, bien sûr, en compagnie de votre acolyte Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de Santé Diabète, avec là toutes les questions des auditeurs. Les auditeurs qui parleront alimentation, qui parleront sport et santé. On vous donne rendez-vous, ce sera donc le lundi 19 février. Merci beaucoup Jean-Marc Sen.
Merci Caroline.
Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tout ça maqué Ophélie Lassène, Didier Bleu. Aujourd'hui, Didier Cherouz et Sigrine Azeroual. Demain, dans Priorité Santé, on parlera des études de médecine, vocation, motivation et doute aussi parfois. Vos témoignages 33 84 22 75 75. On se dit à demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui vous recommande l'assurance mixte pour protéger celles et ceux qui vous sont chers. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.